pleine gueule et quelqu'un pousse un cri. Y'a du partout dans la tôle. Y'a du baston dans la tôle. Y'a du baston dans la tôle. Qu'a fait les mecs, ça va saigner. Pas de son commencé à l'aile gauche de la tôle. Déjà tous mes potes mettent à saccager les pions. Avec des mitraillettes, il y a du baston dans la tôle. Y a du baston dans la tôle. Y a du baston dans la tôle. Café les mecs, ça va saigner. Pour les mains qui disent, sortez de la bande de rats. Pour l'armée, si vous arrêtez pas, tu lâches le radis, je préfère encore crever. On a des allumettes, on va tout faire cramer. Y'a du baston dans la tôle. Y'a du baston dans la tôle. Y'a du baston dans la tôle. Café les mecs, ça va saigner. Dans les gaz suffocants. On a tous dérouillé, mais maintenant de temps en temps, y'a du baston dans la tôle. Y'a du baston dans la tôle. Y'a du baston dans la tôle. Café les mecs, ça va saigner. Allez avec moi. Y'a du baston dans la tôle. Y'a du baston dans la tôle. Y'a du baston dans la tôle. Café les mecs, ça va saigner.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous êtes bien à l'écoute de l'Envolée, comme tous les vendredis soirs, de 19h à 20h30 sur Fréquence Paris Pluriel 106.3. Et pour l'émission de ce vendredi 13 mars 2026, c'est une émission préenregistrée, on n'est donc pas en direct. Et cette émission sera ensuite rediffusée, je crois, mercredi matin et toute la semaine sur tout un tas de radios locales qu'on en profite pour remercier. Pour nous contacter, vous pouvez nous écrire à l'envolée-fpp 1 rue de la Solidarité 75019 Paris. Vous pouvez aussi nous appeler ou nous envoyer des messages au 07 53 10 31 95. Vous pouvez aussi nous contacter par mail à contact@l'envolée.net et nous retrouver aussi sur notre site internet l'envolée.net et aussi sur Instagram l'envolée journal. Donc l'envolée, qu'est-ce que c'est ? Eh ben c'est cette émission de radio et un journal qui, eh ben, depuis 2001, donne la parole aux personnes enfermées et à leurs proches pour lutter contre toutes les prisons, que ce soit les maisons centrales, les maisons d'arrêt, les centres de rétention, les hôpitaux psychiatriques, mais aussi toutes les formes d'enfermement qu'on peut trouver à l'extérieur. Et donc pour ça, bah, on publie et on relaie des lettres, des récits, des luttes. On fait aussi des analyses de procès et de lois répressives. Et voilà, ensuite on discute à cette antenne et dans notre journal qui est gratuit pour les personnes enfermées. Donc voilà, n'hésitez pas à nous écrire si vous souhaitez le recevoir. Et donc dans cette émission préenregistrée, on va donner la parole à nos copains de la Sellette. dont on a déjà relayé plusieurs fois à cette antenne l'émission, qui s'appelle Tapage, et que vous pourrez trouver sur leur site lasellette.org. Et donc les camarades de la Sellette, eux, ils regardent ce qui se passe du côté de la justice, notamment en allant beaucoup dans les tribunaux, assister à des audiences, et pour raconter bah, voilà, comment se passe la justice au quotidien, comment elle enferme voilà, massivement les pauvres, les personnes racisées, et tout ça. Donc on va d'abord passer de la lecture de deux récits d'audience. Donc il y a des chroniques d'audience sur leur site qu'on peut voir. Il y en a une partie qui sont en texte et il y en a une partie qui sont également en audio. Donc on va vous passer deux de ces audios qui sont assez courts et donc qui racontent des passages en comparution immédiate. Ensuite, en seconde partie d'émission, on va passer un épisode donc, de Tapage, l'émission des camarades de la Sellette, qui s'appelle La police devant la justice. Et donc c'est une discussion avec Anna Pitch, qui est quelqu'un qui fait notamment des dessins et aussi des articles et qui va beaucoup, pareil, dans les tribunaux. Et donc qui est allé voir plein de procès de flics un peu partout en France et qui a analysé bah, la façon très particulière dont ces personnes-là sont jugées. C'est forcément quelque chose dont on parle pas mal à cette antenne et qui résonne un peu particulièrement, bah, parce que la semaine dernière, donc on a appris que le policier qui a tué Naël, donc il y a 2 ans, ne va finalement pas être poursuivi, enfin jugé pour meurtre, mais pour violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Enfin bref, on espère rien de la justice, mais en tout cas, on voit bien ce processus-là qui est à l'œuvre de comment la justice systématiquement. Enfin, va blanchir les porteurs d'uniformes. C'est aussi quelque chose qui a été analysé récemment par la famille Didier Médérès et leurs proches, donc Didier qui est mort au mitard de Lyon-Corbas. Et donc on avait fait une émission cet automne spécifiquement sur donc le mémoire qu'ils ont sorti, la contre-enquête, qui démontre notamment la façon dont la justice blanchit cette fois les matons, mais c'est exactement les mêmes processus qui sont à l'œuvre dehors avec les flics. Et ça fera aussi écho évidemment à ce qu'on avait pu raconter à cette antenne et dans notre journal sur le procès des matons qui ont tué Sambali à Saint-Martin-d'Ré en 2016. Et où, voilà, pareil, il y avait, je crois que dans l'émission aussi, là, ils vont reparler de l'effet tunnel qui avait été invoqué par les matons pour justifier le fait qu'ils n'avaient pas réalisé qu'ils étaient en train de tuer quelqu'un. Bref, c'est pour dire que c'est des choses qui parlent, enfin, il y a évidemment des liens avec les quelques procès de surveillants pénitentiaires qu'on peut avoir vus et analysés. Et donc voilà, on va d'abord écouter une première chronique d'audience, ensuite on va écouter Faites entrer l'accusé de virus, ensuite ça va enchaîner sur un deuxième compte-rendu d'audience, et puis après il y aura l'émission d'une heure, voilà, où les camarades de la Sellette avec Anna Pitch reviennent sur, comparent plusieurs procès de flics auxquels ils ont assisté ces dernières années. Voilà, donc on vous laisse avec ce programme. En attendant, bah, pour celles et ceux qui sont à Toulouse demain à l'impasse, donc au 1 impasse La Pujade, il y a une discussion autour des luttes qui avaient eu lieu en 2011-2012 sur contre les établissements pour mineurs, et là en particulier contre celui de Lavore, et donc il y avait eu une attaque contre les locaux de la PJJ, la protection judiciaire de la jeunesse, et derrière une grosse répression, et donc voilà, il y a une journée de discussion à la fois sur la justice des mineurs et sur cette affaire et la répression qui avait eu lieu par la suite. Donc voilà, c'est demain à partir de 14h à Toulouse, à l'impasse, hein, impasse La Pujade. Et ben, bonne émission et comme voilà, force, courage et détermination à toutes les personnes enfermées, à leurs proches et comme d'habitude, il n'y a pas d'arrangement.
La Sellette. Durant l'Ancien Régime, la sellette était un tabouret sur lequel étaient placés les prévenus. Cette pièce de bois, très basse, était taillée pour humilier l'accusé.
Chambre des comparutions immédiates, Toulouse, octobre 2020.
Un Tunisien à peine majeur comparé dans le box. Au cours d'un contrôle d'identité, les policiers se rendent compte qu'il est sous le coup d'une interdiction du territoire national. Il aurait dû être expulsé à la suite de son passage au centre de rétention administrative. La présidente lit d'une voix morne son casier judiciaire. 3 mois de prison pour vente de stupéfiants, vol aggravé, violence à l'entrée d'un local administratif. Pour le reste, sa vie, ses projets, la personne qu'il est, toutes ces choses paraît-il nécessaires à la personnalisation de la peine. On saura seulement qu'il travaille au noir dans le bâtiment et qu'il vit en squat. L'enquête de personnalité ne révèle pas grand-chose, pour ne pas dire rien. L'interprète traduit les explications du prévenu. Elles sont fort brèves. À sa sortie de prison, le confinement l'a empêché d'organiser son départ. Par sa voix, il supplie la présidente de lui accorder les 2 jours dont il a besoin pour récupérer son passeport et préparer son retour. Dans un dernier effort pour se faire entendre, il dit lui-même, en français, qu'il n'a pas mangé depuis 3 jours. La présidente note, placide.
Il a reconnu donc.
Le procureur demande 6 mois de prison avec maintien en détention. La défense non plus n'a pas envie d'y passer la nuit. Elle s'en remet platement au tribunal et se borne à signaler.
N'ajoutons pas de la misère à une situation déjà misérable.
Les juges délibèrent en un éclair. 5 mois de prison et maintien en détention. Rondement mené, l'audience a duré 10 minutes. 2 minutes par mois de prison. Affaire suivante.
C'est l'histoire d'un gamin, pas très bavard, pas très sociable. Il est désespérément normal, mais tellement frustré. C'est une histoire qui ressemble à un roman noir, à un roman de gare. Bref, c'est aussi le symbole d'une époque à mi-chemin entre la tragédie grecque et le théâtre de boulevard. Longtemps, on n'a pas voulu voir sa dangerosité. Un si gentil garçon, ça n'était pas possible.
Où je réussis, où s'est fait entrer l'accusé. Je me suis déjà senti seul sur un banc, observé et jugé par des passants alors que je maîtrisais le sujet. Quitte à en devenir un à étudier, j'ai pas peur d'être muté. Ça m'aidera pas à me conjuguer, je suis né muet. Rien à perdre, ça fait longtemps que je m'ai tué. Entre 4 murmures fissurés, il suffirait d'un 6e sens figuré pour être plus que suspect. Où je réussis, où s'est fait entrer l'accusé. Je me suis déjà senti seul sur un banc, observé et jugé par des passants alors que je maîtrisais le sujet. Quitte à en devenir un à étudier, j'ai pas peur d'être muté. Ça m'aidera pas à me conjuguer, je suis né muet. Rien à perdre, ça fait longtemps que je m'ai tué. Entre 4 murmures fissurés, il suffirait d'un 6e sens figuré pour être plus que suspect. Se coucher avec des envies de mettre des coups de coutelas. J'ai dû retourner ma couette Coca-Cola. On a des haines liées à notre amour propre. Fonction aussi des proches, des potes, des profs, des propres devenus ordinaires avant de connaître des proches. Un bel été pour des tests salivaires. On m'interroge, je vous jure j'ai pas violé la dame, je l'ai pas brûlé. Laissé pour morte dans la forêt, les oiseaux auraient hurlé. Ce que j'excuse le plus, le pétage de plomb total. Si j'en ricane, c'est que je kiffe vraiment l'odeur du gasoil. Non, j'en veux pas qu'à ma banque, mais à la société en général. L'âge de ma Grand me fait lécher mon sang, j'aime la ferraille. Ils sont juste modernisés l'esclavage et s'étonne que la violence ait pris quelques cours d'escalade. D'après mes calculs, ça remonte à quand j'étais gnome. Ces balades accompagnées d'une lame plus longue que ma paume. Où je réussis, où s'est fait entrer l'accusé. Je me suis déjà senti seul sur un banc, observé et jugé par des passants alors que je maîtrisais le sujet. Quitte à en devenir un à étudier, j'ai pas peur d'être muté. Ça m'aidera pas à me conjuguer, j'suis né muet. Rien à perdre, ça fait longtemps que je m'ai tué. Entre 4 murmures fissurés, il suffirait d'un 6e sens figuré pour être plus que suspect. Ça arrange pas tes affaires que je sois lucide. que ce genre de grenade soit pas chargé en glucides. Ils nous liquident, nous servent du judiciaire. Ils ont eu Bill Hill Kid. Moi je pense au crime que personne élucide. L'agent merderie, trop facile comme cible. Je préfère ceux qui déclarent la guerre avec une main sur la Bible. J'écris sur des feuilles de boucher. Dany le prince est sorti, j'aurais bien aimé l'embaucher. Tu me proposes un Jap, je pense jamais aux Japonais. Je veux faire payer ceux qui m'ont rabaissé quand j'apprenais. Ceux qui ont pu profiter d'un instant de faiblesse. Tout est prévu pour les odeurs, je mettrai un coup de fébraise. Touché psychologiquement, tellement de moments frustrants. On pourrait en faire un Jean-Claude Roman. Malheureux comme un petit caillou, tout près d'un carreau. Prochain featuring, peut-être avec un ténor du barreau. Où je réussis, où s'est fait entrer l'accusé. Je me suis déjà senti seul sur un banc, observé et jugé par des passants alors que je maîtrisais le sujet. Quitte à en devenir un à étudier, j'ai pas peur d'être muté. Ça m'aidera pas à me conjuguer. J'suis né muet, rien à perdre, ça fait longtemps que je m'ai tué. Entre quatre murs fissurés, il suffirait d'un sixième sens figuré pour être plus que suspect.
La sellette.
Chambre des comparutions immédiates, Toulouse, octobre 2020.
Muni d'un pied de biche, Mohamed I a dégradé plusieurs vitrines du centre-ville. Son interpellation a été difficile. Il a insulté les policiers et leur a craché dessus. Il comparaît également pour outrage aux forces de l'ordre. Marocain d'une trentaine d'années, en situation irrégulière, il est sous le coup d'une obligation de quitter le territoire depuis plus d'un an. Quand le président lui demande pourquoi il n'a pas été reconduit à la frontière après son passage dans un centre de rétention, il ne comprend visiblement pas la question et répond qu'à l'époque, il avait une copine. Le président hausse les épaules.
On va pas s'en sortir. Tant pis. Vous êtes coiffeur à domicile ?
Mohamed acquiesce et ajoute quelque chose qu'on ne comprend pas bien. L'avocat explique que le prévenu donne l'adresse de son commerce.
Mais enfin, si c'est à domicile, il n'y a pas d'adresse.
La plaisanterie du président fait rire les assesseurs. En revanche, personne n'a l'air de trouver problématique qu'il n'y ait pas d'interprète alors que le prévenu comprend si mal le français. Interrogé sur les raisons de son geste, Mohamed répond qu'il était très alcoolisé. Il ne se rappelle plus de rien. Perplexité du président.
Quand on est alcoolisé, on ne pense pas forcément à se munir d'un pied de biche.
Mohamed répond qu'il l'a trouvé par terre.
Ah, moi, quand je me balade, je ne trouve pas forcément de pied de biche.
Décidément, on s'amuse. Le président revient ensuite, longuement, et avec un peu d'émotion, sur les dégâts.
À Pinky, il y en a pour 16 000 euros de préjudice. Vous vous rendez compte ?
Le prévenu réaffirme n'avoir aucun souvenir. Il ajoute que c'est bien la première fois qu'il fait quelque chose de ce genre. De fait, il n'a pas de casier judiciaire. Peu importe, le président continue d'égrener la liste des grandes chaînes qui ont subi des dommages. Même si, pour ainsi dire, rien n'a été volé, un témoin a vu le prévenu tenir un sac à main qui n'a pas été retrouvé. Et la gérante d'un des magasins a déclaré qu'une chaussure avait disparu. Mais le président se fait surtout du mauvais sang pour les vitrines.
Bon, elles sont assurées, mais tout de même, en plein centre-ville.
Il n'a pas peur des mots.
C'était la désolation après votre passage.
L'instruction se clôt là-dessus. On demande à Mohamed de se rasseoir. L'heure est aux plaidoiries. L'avocat des forces de l'ordre signale qu'en temps de Covid, c'est une violence inouïe de cracher sur quelqu'un. Il s'indigne qu'on ait si peu d'explications. Il semble pourtant qu'on ne se soit pas donné beaucoup de peine pour en obtenir. En réparation du préjudice moral, il demande 800 euros pour chacun des policiers. Le procureur partage l'avis de l'avocat des parties civiles sur le caractère préoccupant des violences faites aux forces de l'ordre.
En ces temps de Covid, il est plus facile de parer un coup de poing que les conséquences d'un crachat.
Démonstration à l'appui, le bras du procureur vient habilement parer un crochet imaginaire. Et puis...
L'alcool n'explique pas tout.
Ajoute-t-il finement. Certes, mais on n'en apprendra jamais plus sur ce qui explique ce geste. Il requiert 8 mois de sursis probatoire et l'obligation d'indemniser l'ensemble des victimes. Le réquisitoire à peine fini, l'avocat des parties civiles se lève pour aller discuter avec le procureur. Signe des temps ou prémonition de la faiblesse de la défense, il a visiblement oublié que l'avocat du prévenu devait plaider. Ça amuse tout le monde. L'ambiance est bien guillerette. De fait, la défense est perplexe.
J'ai cherché à comprendre, mais je ne suis pas psychiatre. Pourquoi cet homme, en situation irrégulière, a-t-il saccagé ses commerces dans la rue la plus fréquentée de Toulouse ? C'est un comportement très curieux. Ça aurait été intéressant de comprendre pourquoi. Là, on n'a pas d'éléments.
On n'en saura pas plus. Ce qui n'empêchera pas le président de dépasser largement les réquisitions en prononçant une peine d'1 an de prison, le maintien en détention et 5 ans d'interdiction du territoire, plus 500 euros par policier. Affaire suivante.
C'était La Sellette.
Yeah.
Bonjour, vous êtes bien sur Canal Sud 92.2 et vous écoutez Tapage, une émission sur les violences judiciaires. Dans l'émission d'aujourd'hui, on va écouter Clément et Nord nous raconter une audience correctionnelle de décembre 2025, au cours de laquelle ont comparu deux surveillants pénitentiaires de la prison de Seyss pour des violences commises sur des détenus. Mais on va d'abord entendre un entretien avec Anna Piche. Anna Piche, elle est autrice et dessinatrice de bande dessinée, elle est aussi dessinatrice d'audience, et elle est venue à la librairie Terra Nova présenter son nouveau livre « Sans foi ni loi, la police face à la justice ». Dans ce livre, elle chronique 15 procès de policiers. Salut Anna, du coup c'est ton troisième livre, t'as fait un premier livre qui est un recueil de comparution immédiate et un deuxième livre sur la question de la garde à vue. Pour ce livre-là, t'es revenu aux chroniques d'audience, donc tu chroniques une quinzaine d'affaires qui ont pour spécificité le fait que le prévenu, c'est-à-dire l'accusé, est un policier. Est-ce que, première question, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi est-ce que t'as voulu faire ça, pourquoi ce choix ?
Ok, bah merci d'être aussi nombreuses ici. Pourquoi les procès de policiers ? Parce que je suis allée à quelques audiences à Paris où j'avais entendu parler qu'il y avait des audiences spécifiques pour ce contentieux-là. Et effectivement, comme il y avait quand même pas mal d'affaires qui revenaient, ils ont fini par se donner des jours spéciaux où la 10e chambre à Paris et la 14e à Bobigny se réunissaient pour traiter les affaires d'infractions commises par la police, que ce soit dans le cadre privé ou au sein de, enfin, lors de leur fonction. Et donc un après-midi par mois se réunissait donc cette chambre où du coup on voyait des policiers passer à la barre se succéder, et c'était très intéressant de voir l'étonnement, enfin les stratégies de défense, et puis l'étonnement en fait de se retrouver convoqué à une audience et avec une, enfin en fait en comparaison des observations que je faisais en comparution immédiate ou en correctionnelle ou de tout autre justiciable, on va dire, normal, eux arrivaient avec une confiance aussi assez impressionnante, en mâchant leur chewing-gum, en arrivant un peu comme des cow-boys, comme si finalement ils n'avaient rien à faire ici. Et en sachant que en fait ils sont, enfin le taux de classement sans suite des affaires de violence policière, il est quand même assez énorme. Hein, je crois que ça c'est un peu assez proche du taux de classement sans suite des affaires de violence sexuelle. Donc il y a quand même une certaine impunité. Et donc ce nombre infime de prévenus ou d'accusés qui arrivent à la barre, c'est quand même enfin, c'est vraiment très minoritaire, donc c'est quand même qu'il y a des dossiers qui sont quand même assez solides, souvent qui se reposent sur des vidéos aussi, on le voit quand même, et ça c'est assez inquiétant dans le sens où ça veut dire que sans vidéo, ce serait peut-être même la base de poursuites engagées par le parquet. Donc voilà, peut-être je parle un peu longuement, mais c'est de là où est venue en fait l'idée d'y aller régulièrement, donc j'y allais souvent. Tous les mois et puis après avec les éditions Masso, on s'est dit que ça pouvait être aussi un sujet de chronique aussi parce que c'est un autre traitement judiciaire qui est différent et donc dans l'idée en tout cas d'analyser le fonctionnement de la justice, je pense qu'il y aurait plein d'autres bouquins à faire sur d'autres sujets, sur d'autres audiences, sur d'autres types d'affaires, mais donc je me suis un peu attardée sur cette question là et donc j'ai vu au-delà de ces chambres spéciales, je suis allée aussi à d'autres procès aussi pour différentes infractions à Paris, Bobigny, et puis à Rennes, il y a deux affaires aussi qui ont été jugées à Rennes dans ce livre-là. Moi, j'en avais vu à Nantes aussi, mais elles ne sont pas dans le recueil.
C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en regardant la différence entre ce type d'audience avec ce type de prévenu, en regardant la différence avec les audiences normales, ça dit aussi des choses sur la justice, sur le fonctionnement de la justice. Ça dit notamment des choses, on va en parler assez longuement, j'imagine, sur le fonctionnement du parquet et ses liens structurels avec la police. Parce que s'il y a bien quelque chose qui est très très différent dans ce type d'audience, c'est l'attitude du parquet, c'est-à-dire de l'accusation vis-à-vis des accusés, quoi.
Ouais. C'est, ça le met aussi dans une position, à mon avis, très compliquée. Parce que c'est vrai que j'avais pris le temps d'expliquer un peu plus longuement le fonctionnement de la procédure pénale dans la première BD, où j'avais bien schématisé pour qu'on puisse comprendre, parce que peut-être je parle peut-être de trucs un peu techniques aussi. En fait, la première porte d'entrée, on va dire, dans l'institution judiciaire, c'est le parquet. Je vais essayer de simplifier les choses, mais en gros, le parquet, c'est les procureurs. Et les procureurs, en fait, ont une capacité de choix très importante, en fait, dans la chaîne pénale, puisque c'est eux qui vont être en contact direct avec les policiers, notamment dans le cas de savoir s'ils vont poursuivre une affaire, s'ils vont la classer sans suite, s'ils vont recourir à des alternatives aux poursuites. Et donc, c'est là où c'est à ce moment-là, à cette phase un peu cruciale quand même, qui est pourtant pas publique, puisque ça se joue au service de traitement en temps réel, donc ça, c'est dans des bureaux, ça se joue souvent sur la base d'appels téléphoniques entre la police et un OPJ et le parquet, des substituts de procureurs qui vont décider en quelques secondes si ils vont poursuivre une affaire ou non. Et ça va pas être public, et c'est pourtant une étape déterminante dans la procédure pénale. C'est ce qui va faire que certaines affaires vont être enterrées, ne vont jamais être poursuivies, ou il va pas avoir d'enquête dessus, et d'autres affaires pour le coup vont être poursuivies. C'est aussi c'est à cette même phase là, enfin en tout cas c'est ce même magistrat du parquet qui vont aussi pouvoir décider des déferments en comparution immédiate ou d'autres types de poursuites. Donc c'est une première étape très importante dans la différence de traitement judiciaire en fonction de certaines infractions et de certains justiciables aussi.
Et du coup, ce qui est marquant, c'est que les affaires qu'on voit là, ça veut dire que le parquet a décidé de poursuivre, a décidé qu'il y ait une audience, et pourtant, le procureur à l'audience, qui n'est pas la même personne, mais qui appartient lui aussi au parquet, parfois défend assez vigoureusement les accusés, voire même, dans plusieurs cas que tu cites dans ton livre, peut demander la relaxe, ce qui est une chose très étonnante à voir.
Ouais, ça peut arriver. Ça arrivait rarement quand même, les demandes de relax, parce que c'est vrai que pour arriver en audience publique, il faut que le dossier soit quand même assez solide. Et souvent, les affaires sont quand même assez accablantes. Mais par contre, effectivement, cette difficulté de reconnaître le caractère systémique des violences commises par la police, c'est ça le réel problème, quoi. Il y a vraiment une tentative de vouloir démontrer que c'est une brebis galeuse, enfin un truc anecdotique, d'individualiser en tout cas le problème, et effectivement de jamais mettre la hiérarchie policière en cause, en fait. Il y a parfois des affaires effectivement qui sont commises dans le cadre privé des policiers, mais il y a aussi des affaires dans le cadre de maintien de l'ordre, dans le cadre, on va dire, d'une organisation systémique de la police. Et du coup, il y a bien souvent des affaires où je me disais, mais en fait, c'est un peu une protection de dire de tout rejeter la faute sur un prévenu ou un accusé. Mais finalement, est-ce qu'on peut aussi regarder la chaîne de responsabilité de toute la hiérarchie policière? Et ça, le parquet, ça le met trop en difficulté, parce que les deux fonctionnent vraiment ensemble, quoi.
Et comme chose qu'on entend dans le parquet, dans ta bande dessinée, il y a par exemple l'argument de la pomme pourrie. Moi j'ai la plus grande confiance dans la justice. C'est justement pour ça que je ne tolère pas une pomme pourrie dans le panier de pommes. Bizarre métaphore par ailleurs, mais enfin bon. Mais t'as aussi certains procs qui peuvent accuser les parties civiles, la victime, notamment dans le cas de violences commises pendant des manifestations. Donc là, dans l'affaire qui s'appelle « Ils sont venus m'enquiquiner », c'est une citation du prévenu, 45 jours d'interruption d'ITT. Donc coup de tonfa sur le poignet, poignet brisé, pendant une manifestation, et c'est la proc elle-même qui met en cause la victime en disant « Mais de toute façon, qu'est-ce que vous faisiez là au contact de la barricade ?»
Ouais, il y a une tentative assez constante d'inverser la responsabilité, et c'est de culpabilisation des victimes. C'est vraiment les mêmes mécanismes qu'on voit dans les affaires de violence sexuelle, c'est-à-dire inverser les responsabilités, culpabiliser la victime, des stratégies aussi de victime, je sais pas comment on dit, on entend les prévenus se victimiser pendant des heures, c'est assez rageant même, parce qu'il y a des fois où c'est, enfin toujours, c'est complètement déplacé en fait. Enfin, et d'ailleurs, oui, j'en profite tant que j'y pense, j'ai ramené, ça c'est les originaux d'un procès début janvier à Nantes. Je peux vous les faire tourner, c'est les originaux, donc partez pas avec. En fait, c'est 5 jours de procès du CRS qui a tué Aboubacar Fofana, un jeune Nantais qui vivait dans un quartier de Nantes, et il se fait tuer. C'est un peu une affaire similaire à celle de Naël. En fait, il a été tué lors d'un contrôle policier voilà, où il n'y avait rien qui se passait, et le gars a fait feu, il lui a tiré dans le cou. Et donc l'affaire a été jugée pendant une semaine à Nantes en cour criminelle, et le gars était très très confiant. Et en fait, il a menti éhontément pendant une semaine, en contredisant même toutes les expertises balistiques, les experts légistes qui disaient que il ne pouvait pas tirer par accident. Et lui a toujours défendu l'accident, alors que tout, même les policiers en fait qui étaient avec lui, ont fini par dire bah non, ça ne tenait pas. Et donc il a menti pendant une semaine, et il a pris 7 ans avec mandat de dépôt, ce qui est une des premières fois une peine aussi importante, enfin pour quelqu'un qui avait même pas été placé en détention provisoire. Et je pense que il a fait appel, voilà. Mais c'était pour vous raconter le contexte, et comme ça vous permet de comprendre un peu mieux l'affaire. Mais...
Là, tu parles des peines, et il y a une chose qui est frappante dans les chroniques de ton livre, c'est que les peines demandées et prononcées sont faibles par rapport à des affaires similaires où le prévenu ne serait pas un policier, alors même que le fait d'être un policier est une circonstance aggravante.
Ouais. Oui, c'est ça, c'est que c'est normalement ça aggrave la peine que ce soit commis par une personne dépositaire de l'autorité publique, et pour autant ça permet de justifier dans les propos qu'on entend au tribunal, voilà, l'effet tunnel, la difficulté du travail policier, et puis ils sont confrontés à des insultes, et puis le travail est difficile, et donc alors même que c'est censé être une circonstance aggravante et pas atténuante, et y a une vraie effectivement, si on mettait ne serait-ce la moindre affaire d'une minime gravité avec un autre justiciable à la place, c'est difficile de faire ce genre de comparaison, mais parce que les affaires sont toujours différentes, mais je pense quand même une certaine légèreté dans les peines, en tout cas.
Par exemple, t'as cette affaire appelée, et c'est une citation encore, « On a percuté un mec, on l'a démonté, on l'a découpé ». Bon, c'est une citation, en fait, d'un policier de la Bravem qui avait oublié d'éteindre sa caméra piéton. Du coup, ils ont roulé sur un monsieur, et après, ils l'ont roué de coups, si je comprends bien.
Oui, alors je sais plus si ça s'est fait à peu près dans le même train de temps. C'était au moment de la, après une manif contre la réforme des retraites, je crois en 2023. Là, il y a eu pas mal d'affaires l'année dernière qui ont été jugées de la Bravem. Je crois que c'était encore la Bravem, mais plusieurs policiers différents qui ont été, les procès sont tombés. Et effectivement, l'affaire, elle était hyper choquante. Et pareil, ils ont eu une stratégie non, ça s'est pas du tout passé comme ça. Et puis l'effet tunnel, et puis machin. Et puis, en fait, ils sont partis de la scène de violence. Et ils avaient gardé un des policiers avait gardé sa caméra piéton allumée. Donc, on a entendu dans la salle d'audience les propos qui étaient, mais d'une violence inouïe, où les gars étaient en train de rigoler, d'avoir percuté quelqu'un, d'avoir, je ne sais plus comment ils disaient, mais les mots sont hyper violents. Et donc...
Et on les entend aussi dire, à la terrasse du bar, j'étais un peu stressée, mais j'ai bien vérifié, personne ne nous a filmé. Bon, c'était ce qui prouve bien par ailleurs qu'ils s'inquiètent pas mal de cette histoire d'être filmé. Et je citais cette affaire pour la question des peines. Donc c'est très grave. J'ai pas noté ici le nombre d'ITT que la personne percutée a eu, mais qui était dans mon souvenir assez important. Ils ont été condamnés à 10 mois de sursis. Et 5 mois de sursis. 10 mois de sursis pour l'un, 5 mois de sursis pour les deux autres. Et pour aucun d'entre eux, me semble-t-il, aussi peut-être... J'allais dire l'interdiction d'exercer qui se pose aussi, parce que là on parle de peine, on est un peu frappé parfois que l'interdiction d'exercer soit aussi peu requise et aussi peu prononcée pour des faits qui semblent souvent très graves, quoi.
Ouais, ça c'est parce que c'est une peine que peut prononcer, je pense que c'est une peine complémentaire que peut prononcer le tribunal, c'est-à-dire de se prononcer sur est-ce que la personne peut continuer d'exercer une mission de ce type. Et ce qu'on voit, c'est que c'est quand même très rare, enfin moi je l'ai vu très rarement une interdiction définitive. plus souvent une interdiction pendant plusieurs années d'exercer sur la voie publique. Donc en fait, c'est parfois même des flics qui vont être un peu promus et qui vont passer dans les bureaux avec un meilleur salaire, ce qui va aussi leur permettre de continuer à cotiser pour leur retraite. C'est assez fou. Il y a eu plusieurs... j'ai oublié ce que je voulais dire, mais sur cette affaire-là, en fait, c'est aussi le moment, comme en fait, on étudie aussi la personnalité des prévenus au moment de l'audience. Il s'avère qu'on regarde aussi s'il y a des procédures en cours. Et en fait, il s'avère qu'il y a eu plusieurs fois où en fait, les juges se rendaient compte que ces mêmes personnes étaient impliquées aussi dans d'autres affaires. Et dans cette affaire-là, ce n'était pas du tout une affaire dans le cadre du maintien de l'ordre. C'était un des policiers qui était poursuivi pour des violences sexuelles sur une mineure, enfin, ou atteinte sexuelle, je ne sais plus comment il le sait. Donc en fait, on apprend, et c'est aussi les audiences, c'est aussi des moments où on apprend des trucs qui ne sortiront pas ailleurs, quoi. Donc après, il n'a pas encore été jugé là-dessus.
L'interdiction d'exercer est rarement prononcée, ça explique aussi pourquoi là, dans ton livre, on voit plusieurs affaires où les policiers qui comparaissent ont déjà été condamnés pour des violences contre des manifestants et manifestantes.
Le procès là du CRS là il a eu lieu 7 ans presque 8 ans après la mort de Aboubacar Fofana, et en fait il a continué d'exercer pendant tout le temps de l'instruction, quoi. C'est-à-dire qu'il a pas il y a eu un contrôle judiciaire, mais il a continué à exercer pendant ces fonctions là il était parti à la retraite en 2024, donc en fait il arrive en procès et voilà, c'est bon, il est à la retraite, enfin il y a plus de risque sur ces émissions. Mais c'est très inquiétant, oui, parce que ce serait quand même le minimum à demander pour une personne dépositaire de l'autorité publique, quoi.
Autre infraction commise dans le cadre professionnel, c'est la consultation illégale de fichiers de police. Il y a plusieurs affaires qui parlent de ça dans ton livre, dont une assez frappante, dans laquelle le policier utilise les fichiers de police pour contacter une plaignante et lui envoyer des photos de lui torse nu, alors même que cette femme était venue dénoncer la veille des faits de viol.
Et ouais, 24 heures avant, enfin, c'était hyper choquant. Et là encore, victimisation du policier qui était pourtant très aguerri, qui avait une cinquantaine d'années, qui avait exercé. Je me demande s'il n'avait pas été à la DGSI aussi. Enfin, c'était pas le tout jeune flic de 19 ans, quoi. Et il trouvait encore une défense. Je sais plus, sa femme était malade.
Sa femme avait un cancer.
Voilà. Bon. Trouver le lien de causalité, tout est possible.
Il y a aussi dans les affaires là que tu chroniques des faits qui ne sont pas commis en service. Il y a des faits qui sont commis à la sortie d'un bar ou à la sortie de boîte de nuit. Donc par exemple, un groupe de 3 policiers qui tabassent à la sortie d'un bar un groupe de plusieurs personnes. Et là, ce qui est assez frappant, c'est que c'est une des affaires où il parle de l'effet tunnel et de la légitime défense. Donc ça fait partie des éléments de langage qui sont constamment mobilisés pour leur défense, à la fois par les policiers et à la fois par les avocats. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que cet effet tunnel ?
C'est une stratégie de défense que j'ai entendue quasiment dans tous les procès auxquels j'ai assisté. C'est un peu un élément de langage qui revient très régulièrement pour dire que dans le cadre de leur fonction, dans un état de stress, ils se seraient focalisés sur un point et donc ils n'en auraient pas vu l'ensemble des choses qui se passaient. Enfin, ils auraient mal appréhendé. En gros, c'est l'excuse pour avoir mal appréhendé la situation et du coup avoir pris une mauvaise décision, mais... effet tunnel. Et donc c'est la défense qu'ils ont pu utiliser sur quand les flics ont chargé le cas Wilson à Nantes, tuant Steve et faisant chuter 13 ou 14 personnes dans la Loire à 4h du matin. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette affaire à Nantes le soir de la fête de la musique. Je me demande s'ils ne l'avaient pas utilisé aussi sur l'affaire de Castelin, du flic qui avait mutilé Théo. Enfin, on a quand même parfois du mal à essayer de saisir le sens, s'il y en a un. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au procès, je reviens sur le procès récent là, du CRS, c'est qu'il y a eu un expert légiste qui est venu à la barre, et donc là encore, les policiers parlaient de l'effet tunnel, alors même que c'était censé être un accident, donc on a un peu de mal à... Voilà, toute stratégie d'évent, c'est bonne à apprendre. Après, parfois, il y a des logiques qui doivent se perdre. Et l'expert légiste a dit un truc très intéressant. Donc, il explique qu'effectivement, il définit la... la l'effet tunnel comme effectivement étant dans un état de stress, le fait de se focaliser sur un point. Et il dit mais et il se retourne vers l'avocat de la défense et lui dit mais l'effet tunnel c'est pour les victimes, c'est pas pour les auteurs. Et donc c'était la première fois que j'entendais ça, alors que ça faisait 2-3 ans que j'allais voir ce genre de procès, et je me disais donc c'est vraiment ils ont intégré cette victimisation au point d'en même prendre les éléments de langage qui devraient être ceux des victimes. En fait, je ne sais pas si ça peut se relier à l'effet de sidération, enfin, ou comme un effet traumatique, mais c'est-à-dire qu'ils se sont même réappropriés les phénomènes que subissent leurs victimes, en fait.
Pour ce qui est de la légitime défense, là aussi c'est intéressant parce que les policiers la mobilisent presque systématiquement. Dans ton livre, tu parles de l'affaire où Théo a été mutilé, et là c'est un des exemples où les policiers évoquent la légitime défense. Le juge lui-même leur rappelle que ça peut pas s'appliquer dans ce genre de situation. Théo était à terre, menotté, maintenu par 4 policiers. Est-ce que tu peux nous rappeler quand est-ce que la légitime défense est censée s'appliquer ?
Ouais, alors j'ai plus trop le texte en tête, mais en gros il y a des conditions très strictes de il faut que ce soit nécessaire, il faut que ce soit proportionné. En gros, il faut que la réponse violente, si on en a une, faut qu'elle soit proportionnée à l'attaque qu'on subit, et nécessaire et immédiate. C'est-à-dire que ça peut pas être après, sinon ce serait en tout cas il faut vraiment que ce soit dans l'immédiateté, que ce soit lié à une attaque et que ce soit à la hauteur de cette attaque. Enfin, du coup, effectivement, dans plein de situations où la légitime défense est invoquée, les conditions matérielles ne sont pas du tout remplies. Et pour autant, là encore, effectivement, le parquet a quand même beaucoup de mal à reconnaître la violence de la police. Et sur l'affaire, effectivement, de Castelin, qui est ce flic qui a été accusé de viol avec acte de barbarie. Hein, je ne sais plus exactement la qualification. Non, ou acte de... Je ne sais plus si c'était acte de torture qui avait été... Moi, je ne sais même plus. Mais effectivement, il y avait un acte de viol qui était reproché, et le parquet refusait d'entendre ce mot, en fait. Alors effectivement, pour la victime, c'était effectivement aussi dur de l'entendre. Matériellement, en fait, c'était la notion juridique qui était... adéquate, et en fait c'était il refusait catégoriquement dans les réquisitions, et pourtant c'était un proc assez connu à Bobigny pour être spécialiste en gros des violences policières, et là par contre non surtout pas, ça pouvait pas être un viol qu'on commis parce qu'il y avait pas d'intention sexuelle, comme si et là en plus l'enquête de disclose elle est sur les violences sexuelles policières, elle permet aussi de raconter ça, mais en fait, c'est l'histoire de toutes les violences sexuelles. Elle repose plus sur un acte de violence et un acte de domination, enfin, et de pure barbarie, plus qu'une intention sexuelle. Donc, c'est de la mauvaise foi de refuser de reconnaître que la police utilise la violence pour terroriser, et la violence sexuelle pour terroriser, de la même manière que le viol et les violences sexuelles sont aussi utilisées en terrain de guerre pour terroriser des gens, et elles le sont au quotidien dans nos vies aussi, et elles le sont pas rarement, enfin elles sont plus pour répandre la terreur, quoi. Et donc c'est aussi une mauvaise foi en tout cas du parquet.
Autre exemple de mauvaise foi du parquet, une affaire encore une fois contre un manifestant et une manifestante, où il y a eu des phrases racistes et sexistes et des menaces qui ont été prononcées. Ça, le parquet a refusé catégoriquement de reconnaître que c'était une menace de violence sexuelle. Alors que la phrase était quand même « Viens, cette nuit, je vais venir me coucher avec toi, le premier qui bande va enculer l'autre ». C'est quand même un genre de menace, malgré tout. Et ça, pour le parquet, c'était inenvisageable de considérer.
Oui, ouais, c'était encore une affaire avec la Bravem, ouais. Ouais.
La parquetière a même dit que c'était une conversation, que c'était un échange entre les deux.
Tout à fait, tout à fait. Ouais. Mais comme si... Enfin, oui, c'est lunaire.
Et c'est la même affaire, en fait, où les policiers ont dit « Pour toi, ce sera 6 mois de prison et au QTF ». Et là aussi, ils ont refusé de concevoir que c'était une phrase raciste.
Ouais. Non, c'était... je sais plus ce qu'avait dit le flic. Il s'intéressait à son histoire, je sais plus. Enfin, c'est... Oui, parce qu'il lui avait demandé comment il avait traversé la Méditerranée. Enfin, c'était hallucinant. Mais il y a aussi cette difficulté de reconnaître toutes les circonstances aggravantes de l'ordre de discrimination systémique, quoi. Et donc de reconnaître que la police elle est raciste, de reconnaître qu'elle est sexiste. Enfin, c'est et qu'elle commet des crimes. C'est en tout cas, il faut toujours trouver une justification. Et donc donc oui, les débats judiciaires sont quand même parfois assez hallucinants, quoi.
Comme tu nous as expliqué, il y a pas mal de cas où le parquet décide de classer sans suite, notamment quand il n'y a pas de vidéo et pas de témoin. Mais il y a plusieurs exemples, il y a deux exemples, il me semble, dans ton livre, où en fait, on voit qu'il y a une manière de contraindre en quelque sorte l'audience. Est-ce que tu peux... Ça s'appelle une une citation directe avec... témoin, je ne sais plus, je suis désolée. Ah voilà, ça n'a rien à voir, c'est aucun mot n'est bon. C'est une plainte avec constitution de partie civile. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste ?
Ouais, alors en fait, nous, notre système judiciaire, il est un peu... On a donc le parquet, je vous racontais, qui a ce pouvoir quand même très important de choisir de la suite d'une affaire. Et lui, en fait, il est considéré comme représentant la société. Donc il va prendre une décision... en représentant la société. Donc apparemment, certaines affaires intéressent plus la société que d'autres. Donc une fois que vous avez, par exemple, dans le cas où l'affaire commence par exemple sur un dépôt de plainte et que le parquet décide de poursuivre, bah même si vous retirez votre plainte ou que vous voulez plus continuer, en fait c'est un peu cela ne vous appartient plus en tant que victime. C'est-à-dire que c'est la société qui a pris donc c'est l'action publique, on va dire, c'est le procureur qui poursuit pas en votre nom mais au nom de la société. Et du coup c'est aussi pour ça que parfois on dit je retire ma plainte, mais non, une fois que le parquet a décidé de poursuivre, il poursuit du coup au nom de la société. S'il est classe sans suite aussi, vous vous retrouvez, c'est pas l'État, c'est pas la société qui va pouvoir mettre les moyens de poursuivre à votre place. Et donc il y a effectivement deux procédures particulières qui vont permettre en fait de poursuivre quelqu'un en notre propre nom, donc soit une plainte avec constitution partie civile, soit en une citation directe, et alors avec aussi certaines contraintes, parce que là du coup c'est plus la société avec le fric public qui va poursuivre à votre place, mais là du coup va falloir avoir un avocat, va falloir payer une espèce de caution. C'est aussi des risques pour la victime, et puis c'est des risques aussi que si ça ne va pas au bout, ce sera en votre nom aussi qu'on pourra vous poursuivre en diffamation. Enfin, donc c'est quand même une procédure qui est beaucoup plus risquée que si le parquet faisait son travail. Enfin, voilà. Donc ce serait quand même normalement à la justice de faire son travail en tant que service public. Mais là, en l'occurrence, ça peut quand même être un moyen de passer outre, mais il faut quand même avoir un dossier très très solide pour le coup. Mais ça arrive souvent, et notamment en matière de violence sexuelle aussi, d'avoir recours, et heureusement qu'il y a ces recours-là. Et effectivement, Harry Halimi, qui est un avocat très célèbre et donc qui fait beaucoup de grosses affaires assez médiatisées, plusieurs fois dans le livre, et puis que je l'ai vu aussi plusieurs fois au tribunal, il fait ces procédures-là avec des victimes de violences policières, et donc j'imagine qu'il doit pas les faire payer beaucoup pour pouvoir parce qu'il défend aussi plus largement il lutte aussi plus largement contre les violences de la police, donc ça s'inscrit aussi dans une démarche militante. Mais parfois en fait arrive à l'audience aussi le parquet n'a pas fait son travail ou a refusé de le faire, et donc la partie civile en tant que victime va apporter le dossier, et effectivement en fait dans l'affaire que tu racontais de la Bravem avec les propos racistes et les menaces de viol, le parquet avait décidé de classer, et c'est Harry Halimi et la victime qui ont décidé de non en fait on y va, quoi.
Et je crois que c'est une des affaires où le parquet a demandé la relaxe aussi, me semble. Il me semble que oui. Parce que pas de vidéo, pas de témoin. Et là, vraiment, pas de vidéo, pas de témoin face à des policiers. Bon.
Oui, on dirait que c'est presque un prérequis, en fait, sauf qu'en fait, à aucun moment dans le code pénal, c'est marqué que pour déposer plainte contre un policier, il faut avoir une vidéo, en fait. Et heureusement que non. Enfin, et dans plein d'autres cas d'infraction pénale, en fait, s'il fallait une vidéo pour pouvoir prouver des violences, en sachant que toutes les violences qui se commettent dans le cadre privé, où il n'y a pas de vidéo, où il y a, enfin, ce serait impossible. Donc, de commencer à exiger ça, c'est très dangereux, quoi.
Et du coup, ça fait aussi que, vu qu'il faut ça, ça veut dire, c'est aussi une des raisons pour lesquelles le fait de se voir filmer à l'occasion déclenche chez les policiers beaucoup de violence. Il y a une affaire que tu racontes là où le monsieur qui s'est fait briser le poignet et qui a eu 45 jours d'ITT, c'est parce qu'il était en train de filmer un policier.
Et ouais, et puis il exigeait d'avoir son RIO, donc son numéro d'identification. Et le flic qui n'était pas un tout jeune flic aussi, hein, qui avait peut-être 20 ans de carrière et qui trouvait que c'était, je sais plus comment il avait dit ça, il se sentait agressé par le fait qu'on lui demande son numéro d'identification qui est censé être obligatoire. Il porte un uniforme, il agit dans le maintien de l'ordre, il tabasse des gens publiquement dans le cadre du maintien de l'ordre et il refuse de porter son matricule, en fait. Donc il tabasse quelqu'un sur le fondement qu'on lui a demandé. Enfin, je veux dire, à qui on file des armes, en fait. La question revient souvent.
Sachant par ailleurs que lui-même a invoqué la légitime défense et a expliqué que c'était évidemment le manifestant qui l'avait enquiquiné et que par ailleurs il recevait des jets de projectiles, etc., etc., etc. Et là, il y avait aussi pas mal de vidéos qui montraient qu'il n'y avait pas de jets de projectiles, que la manifestation était calme, ce qui a coupé un peu sous l'herbe sous le pied du parquet qui sinon s'apprêtait à... Ne pouvant pas dire que là, à cette manifestation-là, les choses avaient dérapé, la procureure est montée en généralité, a dit oui, ça n'a pas dérapé là, mais ça dérape habituellement.
Oui, c'est ça, c'est que malgré le fait qu'il y ait des vidéos qui prouvent, et il y a une autre affaire aussi très marquante, parce que le policier avait été acquitté dans une affaire de mutilation d'un syndicaliste suite à une manif en 2016. Oui, c'était ça, 2016. Alors que la vidéo, en fait, c'était un procès où c'était 3 jours de cour d'assises parce que la personne avait été mutilée à vie et donc au début de procès, il y avait une vidéo, il y a une vidéo très claire où on voit absolument tout, on voit le flic lancer une grenade en cloche sur une place de la République hyper calme, fin de manif, tranquille, les gens en train de discuter, mais en train de tous partir. Et donc, moi, c'est vrai que naïvement, je crois que c'est le plus vieux procès qu'il y a dedans, qui date de 2022. Et moi, je pense que c'était la première peut-être une des premières fois que j'allais à un procès de ce type. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'on va faire pendant 3 jours? La vidéo, elle est tellement accablante que, il va y avoir les débats, on va dire, habituels, mais quel retournement de situation possible. Enfin, ça me paraissait... il s'est avéré que la défense a réussi à vraiment recréer un récit par-dessus la vidéo et faire oublier cette vidéo au jury et au magistrat, et le flic a été acquitté. Et comment il a réussi à recréer un autre récit, c'est que deuxième jour d'audience, l'avocat qui est Maître Liénard, un avocat très connu pour la défense des policiers et très convaincu par la défense des policiers aussi, hein, c'est l'avocat médiatique qu'on voit qui défend le flic qui a tué Naël et plein d'autres, il a fait venir à la barre plein de CRS. Et en fait, ça a duré de 10h jusqu'à 22h le soir. Enfin, vraiment, c'était vraiment du bourrage de crâne. On a entendu des flics venir à la barre se victimiser. Et ils n'étaient même pas présents forcément au moment des faits. Hein. Mais dire à quel point, en fait, ils étaient sous une pluie de projectiles. Mais plus que ça, c'était des pluies. Puis de pluies de projectiles, on passait à des pluies de cocktails Molotov. Et puis de cocktails Molotov. Enfin, et en fait, c'était toujours plus... les mensonges étaient toujours plus gros. Et après, là, il y a une responsabilité aussi dans la tenue de l'audience. C'est-à-dire que la présidente d'audience, qui encadre le jury populaire, n'a jamais recadré le débat. Et ça, c'est la responsabilité pour moi du tribunal. C'est-à-dire qu'il y a eu des témoins. En plus, moi, j'avais des camarades qui étaient témoins de moralité parce qu'ils faisaient partie d'assauts de soutien aux mutilés par la police. et eux sont venus en tant que témoins de moralité témoigner à la barre, et dès qu'ils ont passé 5 minutes de parole, la présidente a dit « Ok, merci, vous n'êtes pas expert judiciaire, on a eu votre témoignage ». Enfin, c'est-à-dire que c'est dans le pouvoir des magistrats de pouvoir faire taire quelqu'un et lui dire « Bon, bah, c'est bon, vous avez parlé voilà, vous êtes témoin de moralité et vous n'étiez pas là, vous n'étiez pas présent sur le moment, on a... » Et là, elle ne l'a pas fait, en tout cas, elle l'a fait pour ses camarades-là, et elle ne l'a pas fait pour tous les policiers qui venaient se plaindre à la barre et puis inventer. C'est-à-dire que jamais elle a recadré le débat en disant « Ok, un cocktail Molotov, où, quand, comment, est-ce qu'on peut le voir sur la vidéo ?» Il n'y a aucun projectile sur la vidéo. Le problème, c'est que la vidéo, on l'a vue le lundi matin, au début de l'audience, et on ne l'a plus jamais revue. Et donc est passée cette journée interminable, ce deuxième jour interminable où on a entendu rabâcher des discours et refaire... Et presque, en fait, si on n'arrivait pas avec un parti pris au début, moi je connaissais la victime, je connaissais les témoins, et donc mon parti était pris, mais je me dis, si j'étais arrivée très naïvement, si je connaissais rien à la police, si j'étais jamais allée en manifestation, si vraiment j'arrivais extrêmement objective, est-ce que effectivement ils n'auraient pas réussi à me recréer une nouvelle scène, une nouvelle vidéo, et parce que je pense qu'au bout de 10 heures à entendre ce genre de truc, on se fait sa propre voilà. Après, c'est une stratégie de la défense, et la défense a le droit de faire ça. La responsabilité, elle est plutôt du côté des magistrats qui sont censés, eux, être impartiaux. Et la défense, elle n'est évidemment pas impartiale, comme la partie civile. Voilà. Mais par contre, la magistrature, la présidente a cette obligation d'impartialité, et elle aurait dû couper le débat, en tout cas, ou le recadrer. Et comme la vidéo n'est pas repassée, finalement, on a oublié le truc. Et en fait, le mercredi soir... le délibéré est tombé et le flic a été acquitté, alors même que tout était accablant, qu'il n'avait pas l'autorisation de détenir cette grenade, qu'il l'a lancée en cloche. Tous les experts l'ont étudié schématiquement, donc il l'a lancée de manière illégale, il l'a détenue de manière illégale, et il n'y avait aucune légitime défense au sens de nécessité, proportionnalité et immédiateté, donc voilà. Et il y a eu un acquittement là-dessus.
On voit dans pas mal des audiences là que tu chroniques qu'il y a pas mal de soutien dans la salle, il y a pas mal de soutien de policiers dans la salle, les salles sont souvent pleines, il y a pas mal de soutien du coup des collègues, mais aussi de la hiérarchie. Et on le voit beaucoup, notamment pour le procès du commissaire dans le cadre de la mort de Steve, où il y a toute la hiérarchie qui défile pour expliquer quel excellent professionnel c'était.
Ah ouais, et puis alors vraiment du plus haut, je sais plus les noms, mais on a eu le directeur de la police nationale. Et là, ce qui est intéressant, c'est que a été poursuivi dans l'affaire du commissaire Chassin, uniquement dans l'affaire de Steve qui est mort tué suite à une charge policière au-dessus de la Loire le soir de la fête de la musique en 2019. Et là, ce qui change aussi, à la différence de toutes les autres affaires que j'ai pu voir, c'est que là, on a quelqu'un de la hiérarchie qui a été poursuivi. On n'a pas les petits flics de terrain ultra violents. Et là, pour le coup, il a eu le soutien de toute sa hiérarchie. Et il a été relaxé parce que effectivement, il n'était pas seul responsable. Il y avait toute une chaîne de commandement et aurait dû être poursuivi aussi. Même en fait, sont venus aussi témoigner à la barre. Les flics étaient sur le quai Wilson et qui ont tiré, tasé. Enfin, et eux n'ont pas été poursuivis. Et donc effectivement, je peux comprendre le raisonnement du tribunal en disant bah oui, mais du coup, enfin, soit on poursuit toute la chaîne, soit on voilà. Mais donc toute cette hiérarchie jusqu'au directeur de la police nationale sont venus parce que c'était le commissaire, mais se désolidarisent quand alors c'est marrant parce que c'est pas du tout marrant, mais la dernière affaire qui date de septembre 2025 où c'est un flic qui a tué sa compagne donc dans le cadre privé. Là, par contre, on n'a pas vu les syndicats de police. Évidemment, c'est une pomme pourrie. Ça n'existe pas. Alors, c'était quand même intéressant de voir quand même que tous les collègues étaient au courant, parce qu'en plus, ces deux ex-compagnes avaient déposé plainte. Donc, Bon, là aussi, la responsabilité de la hiérarchie, enfin, de la, même de toute de la, enfin, de tous ses collègues qui savaient de, que le mec tabassait ses conjointes depuis des années. Mais donc, dans certains cas, il y a les soutiens des syndicats. Dans d'autres, la hiérarchie, mais très rarement. Il faut quand même que la personne soit suffisamment importante. Et, mais par contre, effectivement, les syndicats, quand même, de Alliance, Police, enfin, ils sont quand même très souvent là. Ouais.
Et j'allais dire, ouais, même pour les infractions commises dans le cadre privé, ça fait quand même une différence que le prévenu soit un policier, notamment justement pour ça, pour quand la victime veut porter plainte. Parce qu'il y a le cas dramatique, tu dis que ses deux précédentes compagnes ont porté plainte. Alors oui et non, il y en a une, elle n'a pas pu. Parce qu'elle est arrivée, elle a essayé, et puis la personne en face lui a dit non, on ne prendra pas sa plainte en fait.
On ne prend pas la plainte d'un collègue, ou je ne sais plus comment il a répondu. Et oui, bah, c'est ça, parce qu'en fait la chaîne pénale, elle commence, qui prend les plaintes en fait, c'est les policiers. Donc en fait, comment vous allez porter plainte à des policiers? Alors il y a pareil, il y a un autre recours qui est peu connu, c'est qu'on peut envoyer une plainte par courrier au procureur, ce qui permet de déposer plainte sans passer par la police. Franchement, c'est quand même un bon truc à savoir quand on n'a pas envie d'être confronté à la police. Après, ça pose d'autres questions. Je sais pas, le traitement est quand même plus lent. Enfin, il faut envoyer des recommandés, il faut relancer le parquet. Et puis, alors moi, je sais qu'à Nantes, par exemple, je sais pas si c'est dans toutes les villes, mais si vous déposez pas plainte à la police et que vous déposez plainte par courrier recommandé, donc clairement la plainte officiellement est déposée, hein, mais vous avez pas le droit de prendre rendez-vous avec les UMJ. Donc l'unité médico-judiciaire, vous n'avez pas le droit à un rendez-vous pour fixer des ITT. Moi, ça m'est arrivé l'autre fois, je dis, ah bah, je comprends pas. Et on me dit, ah bah non, il faut déposer plainte à la police. Ah, donc il y a des privilèges. Enfin, alors ça, je ne sais même pas dans quel... comment ça peut être possible légalement, qu'il y ait deux chemins différents alors que quand même l'acte est similaire. En tout cas, effectivement, comment on dépose plainte quand en fait on n'a pas d'autorité indépendante. Alors l'IGPN peut recevoir aussi certaines plaintes, mais il y a... Il y a un vrai problème d'indépendance, en tout cas d'une autorité qui puisse réellement poursuivre la police. Même en fait que ce soit le parquet qui soit directement lié quand même dans leur mission au quotidien, qui soit en charge des poursuites, que le dépôt de plainte soit, que la réception des plaintes soit faite par la police, alors qu'on les sait déjà pas compétents pour n'importe quel justiciable, donc encore plus pour leurs collègues, quoi. On comprend évidemment pourquoi si peu d'affaires de violence ou d'infractions commises par la police plus largement ne sont pas poursuivies, quoi.
Et hors violence conjugale, la première affaire là, de ton livre, c'est la plainte aussi n'a pas été reçue. C'est, pour le coup, c'est hors service. Deux policiers qui sortent de boîte, ils zigzaguent sur la route en voiture. Le monsieur derrière fait un appel de phare. Le policier sort de sa voiture, sort le conducteur, le tabasse, explique que c'est l'effet tunnel et la légitime défense, repart.
Ouais, en abandonnant un mec qui venait de tabasser très gravement, délit de fuite, en plus je crois qu'il est pas venu tout de suite quand il a été convoqué, parce que il savait pas trop s'il fallait venir, puis je disais qu'il allait bien finir, c'est les flics où on tabasse pas à la porte à 6h du mat pour venir les chercher quand ils viennent pas à une convocation, quoi. Donc il y a une certaine complaisance quand même.
Et c'était 5 ou 6 ans après les faits, très longtemps après les faits, justement parce que on n'avait pas pris sa plainte au commissariat et qu'il avait dû recourir au système que t'expliquais tout à l'heure.
Ouais, citation directe, je pense que c'était ça qu'il avait fait. Ouais.
Peut-être pour finir, avant de passer aux questions, est-ce que tu peux nous dire quelques mots de comment ça se passe en audience, tes dessins, c'est-à-dire qu'est-ce que tu... J'imagine que tu fais pas tout comme ça en live, et les dessins, et les... Comment est-ce que tu fais? Voilà.
Du coup, c'est aussi pour ça que j'ai ramené les dessins originaux. Je sais pas si vous avez eu le temps d'y jeter un œil, mais en fait, moi, j'essaie de tout faire sur le moment. Quand j'ai pas forcément la place, c'est aussi pour ça que parfois je fais du noir et blanc, parce que j'ai besoin de moins de crayons dans les mains. Donc c'est parfois plus pratique. Après, si j'ai un peu de place autour de moi, ou même parfois dans certaines salles, il y a des bureaux. Donc à Nantes, là, par exemple, il y a un bureau pour les dessinateurs. Donc là, du coup, j'ai pu faire la couleur. Mais je me tiens à tout faire directement. J'écris au crayon de bois, je passe par-dessus. Parce que déjà, je passe énormément de temps. En fait, c'est quand même des journées qui sont très, très longues. Et du coup, s'il y avait besoin aussi de les retravailler le soir... déjà parce que en fait quand j'ai essayé de refaire des dessins après, je me suis rendu compte qu'on perdait le... bah oui, les dessins pouvaient peut-être être mieux, mais on perdait aussi tout ce qui représentait aussi de l'instant, en fait, le dessin sur le vif aussi, il représente un moment, enfin moi aussi, ma manière aussi de percevoir les scènes. Parfois on sent peut-être aussi la colère et c'est aussi ma manière de la canaliser aussi, parce que je pense qu'on est beaucoup à assister à ce genre de procès, à avoir très envie de crier ou de se lever ou de vraiment d'insulter tout le monde, quoi. Et donc là, au moins tout est mis, enfin voilà, ça permet de la prise de notes permet de se concentrer en tout cas sur voilà, inscrire les choses pour qu'elles puissent être racontées à l'extérieur. Et donc, voilà, du coup, c'est plein de feuilles. Là, je sais pas, il y a peut-être 70 dessins, peut-être, que j'avais fait en une semaine. Hein, après, en une journée, ça dépend. Et puis voilà.
On vient d'écouter Anna Piche nous présenter son dernier livre, « Sans foi ni loi, la police devant la justice ». Merci encore à elle pour cette rencontre. Et maintenant, Clément et Nord vont nous parler d'un procès au cours duquel deux surveillants pénitentiaires ont été jugés pour des violences commises sur des détenus de la prison de Seyss.
Alors, le 10 décembre 2025, on est allé assister à une matinée d'audience au tribunal correctionnel de Toulouse, au cours de laquelle étaient jugés deux surveillants pénitentiaires, tous les deux de la maison d'arrêt de Seyss, pour des violences commises sur des détenus. Il s'agissait de deux affaires différentes. Quand on est entré dans la salle, ce qui nous a frappé, c'est qu'il y avait plutôt beaucoup de monde. Et tout ce monde-là était groupé d'un côté de la salle. Et en fait, on a vite compris que tous ces gens étaient des collègues des prévenus, qui étaient venus en soutien, et ils n'avaient pas l'intention d'être discrets. Et donc, tout au long de l'audience, ils vont se manifester, mais ça, on y reviendra avec Clément. La première affaire, c'est un surveillant gradé qui est accusé d'avoir, dans un premier temps, frappé deux détenus dans le couloir devant leur cellule lors d'une opération de fouille de la cellule, et dans un deuxième temps, d'avoir giflé le troisième détenu de cette cellule dans une salle de fouille. Il y a donc trois victimes, mais le 10 décembre à l'audience, une seule est présente, l'homme qui a été agressé en salle de fouille. Depuis les événements, il est sorti de prison, il a porté plainte, contrairement aux deux autres victimes qui, elles, sont encore incarcérées à Seyss et qui n'ont pas voulu porter plainte. Le prévenu, lui, le surveillant, il reconnaît les agressions qui ont eu lieu devant la cellule. En même temps, ces agressions, elles ont été filmées et enregistrées par la vidéosurveillance de la prison. Les magistrats ont vu ces enregistrements et pendant toute l'audition du surveillant, ils vont s'appuyer dessus pour corroborer ou pas les déclarations du surveillant. Par contre, ce surveillant, il nie avoir frappé la troisième victime. Or, cette fois-ci, il n'y a pas de vidéosurveillance puisque les faits auraient eu lieu en salle de fouille. Donc, on a seulement la parole de l'ex-détenu, sa plainte et sa présence ce matin-là quand même au tribunal. À la fin de l'audience, le maton est reconnu coupable des deux premières agressions, celles qui ont été filmées donc, mais l'homme qui a porté plainte est débouté. Le surveillant est condamné à 4 mois de sursis simple, pas d'inscription au casier judiciaire, pas d'obligation de suivi. Et d'après les juges, cette condamnation, c'est un avertissement pour lui.
La deuxième affaire, elle concerne des faits de violence commis par un surveillant sur 5 détenus dans le secteur des parloirs, dans une zone qui est dépourvue de caméras parce qu'elle est dédiée aux fouilles corporelles. À chaque fois, l'incident débute par une suspicion de rentrée d'objets interdits, selon l'expression consacrée, suite à un parloir que les détenus viennent d'avoir. Cette affaire, elle est d'abord sortie grâce au témoignage d'un surveillant qui a quitté l'établissement depuis. Les premiers faits de violence ont eu lieu en septembre 2024, qui concernent 3 détenus qui dénoncent des coups à la tête et des étranglements. Ce surveillant écrit à sa hiérarchie pour faire remonter les incidents, et les détenus seront entendus dans la foulée. Mais il ne se passera d'abord rien pour l'agent mis en cause, à qui une demande d'explication est envoyée à 2 reprises par la direction, sans réponse de sa part. Et un quatrième fait de violence survient en novembre 2024. Un détenu décrit, lui, avoir été étranglé, sa tête tapée contre le sol. Il va porter plainte le 12 décembre, c'est le premier à le faire. Puis, en janvier 2025, un cinquième détenu est victime de coups violents. Lui, il est plaqué contre un mur, le surveillant lui tape la tête contre ce mur. La victime aura une plaie à l'arcade sourcilière et va porter plainte fin janvier, mais le surveillant va rester en poste jusqu'en mai, date à laquelle il sera placé en garde à vue, puis sous contrôle judiciaire. Contrairement à la première affaire, le prévenu dément les violences qui lui sont imputées. Selon lui, les détenus se sont cognés la tête tout seuls ou alors déchiré un t-shirt tout seul. Tout juste reconnaît-il avoir le verbe haut et parler parfois un peu fort. Finalement, le surveillant est condamné à 24 mois de prison avec sursis, sans interdiction d'exercer son métier, ce qu'avait demandé d'ailleurs le procureur qui avait également requis 3 ans de prison avec sursis. Deux affaires donc qui sont différentes, mais ce qui nous a frappé, ce sont les similitudes. Dans les deux cas, on constate d'abord que les victimes de ces violences n'ont pour la plupart pas porté plainte. Elles témoignent toutes de la crainte des répercussions que pourrait avoir une telle démarche sur leur vie en prison. On parle par exemple de rétention de produits cantinés, suppression de promenades, de douches, de travail ou d'activités, etc. Dans la première affaire, par exemple, il y a 3 victimes, mais le seul qui porte plainte a fini sa peine. Et dans la seconde, 5 victimes au moins ont été identifiées. Sur ces 5, seulement 2 ont porté plainte. Et sur ces 2, une avait une avocate, ce qui est loin d'être le cas pour la majorité des détenus, et l'autre a été transférée dans un autre établissement pénitentiaire. Cette crainte, on la comprend quand on assiste à l'audience. Quand ils rentrent dans la salle, les détenus ont face à eux une bonne trentaine de surveillants de SEIS venus pour soutenir leurs collègues et qui vont réagir souvent et peu discrètement tout au long des débats, à base de soupirs, de rires, de soufflements. Une présence pas anodine pour les détenus puisque ce sont les surveillants qu'ils croisent tous les jours dans l'établissement. Donc sur les 3 détenus, 2 qui repartent à Seyss verront les surveillants le lendemain dans les coursives. Au-delà de ce soutien, c'est donc surtout une marque d'intimidation envoyée à la face des détenus par ce COP d'agents de la pénitentiaire.
Ces craintes de faire sortir l'histoire, de témoigner des violences qu'ils ont subies, le plaignant dans la première affaire l'a très bien expliqué au juge durant les quelques instants, parce que ça n'a pas duré très longtemps, où les juges lui ont donné la parole. Il explique qu'au moment où il a été frappé, il lui restait seulement quelques semaines de détention. Et donc, il voulait surtout pas risquer d'avoir des problèmes. Il voulait qu'on l'oublie jusqu'au jour de sa libération. Et c'est pour ça qu'il n'a pas parlé de l'agression à ce moment-là, ce que le juge va lui reprocher lors de l'audience. Et il a juste raconté ce qui s'était passé à sa mère quand il l'a vue pendant un parloir. Et c'est justement sa mère qui, indirectement, est à l'origine de l'audience d'aujourd'hui, puisque c'est elle qui a signalé ses violences à la direction de la prison. Et c'est à partir de ce moment-là qu'une enquête administrative a été ouverte. C'est à la suite de la dénonciation de la mère que les vidéosurveillances ont été portées à la connaissance de la justice. Et la victime, elle a préféré attendre sa sortie de prison pour porter plainte. Donc on voit, on comprend, il explique bien les raisons qui font qu'il n'a pas parlé tout de suite, mais pourtant, la parole de cet homme n'est pas du tout crue par les juges. Durant son réquisitoire, le procureur explique: on ne comprend pas bien pourquoi vous portez plainte aujourd'hui et pourquoi vous n'avez rien dit à l'époque. Il souligne que c'est votre parole, celle du détenu, contre la sienne, la parole du surveillant. Il lui rappelle sa déposition au moment de l'enquête. Vous assuriez ne rien avoir subi de qui que ce soit. Et à supposer que vous vous plaigniez de violence, c'est votre parole contre celle d'un membre du personnel pénitentiaire, comme vous avez dû clamer votre innocence devant le tribunal quand vous avez été condamné. Donc bref, le juge sous-entend très clairement que parce que cet homme a été condamné un jour, il sera considéré toute sa vie comme un menteur pour la justice. D'ailleurs, c'est pas seulement un sous-entendu, puisque durant la deuxième audience, le procureur a carrément déclaré « on le sait, les détenus mentent ». Donc finalement, cette première affaire, elle donne l'impression que le maton a été en partie condamné exclusivement parce qu'on pouvait pas faire autrement. Il y a des vidéos, ces actes ont été filmés, donc c'était difficile de passer outre. Par contre, la parole seule d'un détenu qui porte plainte, qui vient au tribunal, zéro valeur, on ne le croit pas.
Ces deux affaires montrent aussi à quel point les détenus sont des sous-victimes aux yeux de la justice. Un élément éclairant par rapport à ça, ce sont les interrogatoires et les réquisitions du proc, qui a rappelé que les détenus sont vulnérables, mais il a surtout fait une longue leçon de morale sur le rôle de la prison, de la justice, en disant notamment « ces comportements contaminent l'ensemble de la chaîne pénale et la discrédite ». comme si finalement c'était l'image de la justice et de la prison qui était plus importante et qui passait avant les atteintes aux détenus. Des détenus dont la parole est très difficilement crue, on l'a vu précédemment. Dans les deux affaires, on a l'impression surtout que ce sont d'autres éléments que leur témoignage qui décident de la réalité des faits et de la culpabilité des surveillants. Dans la première affaire, c'est la vidéosurveillance, et dans la deuxième affaire, c'est le témoignage d'un autre surveillant qui dénonce les faits auprès de sa hiérarchie. Même dans le cas où la justice les croit, il faut voir comment ils sont traités. La première chose qui frappe en effet au début de la deuxième audience, c'est le contraste entre les cinq détenus, donc l'arrivée des cinq détenus victimes dans la salle. Étant au jour du procès toujours incarcérés, ils arrivent en fait dans le box des accusés, encadrés par des policiers. Et à l'inverse, le surveillant, lui, comparaissait libre, comme son collègue auparavant d'ailleurs, donc les deux sont à la barre. Plutôt que des victimes présumées, les trois personnes sont donc rappelées à leur statut quasi insurmontable, celui de détenu, donc d'une certaine manière d'éternel coupable. L'un des trois détenus qui est géorgien parlait pas bien français, mais ça, le tribunal s'en est rendu compte le jour même, et il s'est rendu compte le jour même d'ailleurs qu'il n'y avait pas d'interprète, peu importe, l'audience s'est déroulée normalement, s'est déroulée quand même, sans interprète, et la victime a tenté de se faire comprendre tant bien que mal. Par ailleurs, la salle dans laquelle les audiences ont débuté devait être libérée à 14h pour laisser la place aux comparutions immédiates. La nouvelle salle ne disposant pas de box pour les accusés et le tribunal n'ayant visiblement pas assez de policiers pour encadrer les détenus, ces derniers ont finalement pas pu assister à la fin du procès, notamment aux deux dernières plaidoiries, ce qui là non plus n'a pas eu l'air de déranger outre mesure le tribunal.
Et voilà, c'est la fin de notre émission et on se retrouve le mois prochain. Au revoir.
Comme le juge avait mal mangé, le premier prévenu fera un an de prison pour un porte-monnaie volé à une dame dans la rue qui sortait de sa maison. Pas de chance, pense l'avocat, on serait tombé lundi ou mardi dernier. Mon client, c'est sûr, s'en serait mieux tiré. Quand même un an, c'est un peu exagéré. Comme le juge avait mal mangé, le deuxième prévenu fera 2 ans de prison. À 20 ans, quelle idée d'emprunter la DS à injection d'un haut fonctionnaire en fonction. Pas de chance, pense l'avocat, monsieur le juge, j'aurais mieux digéré. Mon client, c'est sûr, s'en serait mieux tiré. Quand même 2 ans, c'est un peu exagéré. Comme le juge avait mal mangé, le troisième prévenu fera 4 ans de prison. On ne vole pas quand on est étranger, sans permis de séjour et sans qualification. Comme le juge était fatigué, le dernier prévenu ira dormir en prison. Il attendra pour être jugé quelques jours ou quelques mois. Question d'organisation. Ti-da-da, di-di-di-do-da, do-do-da, di-da-da, do-do-ti-da-di-do-da. Ti-da-da, di-di-di-do-da, do-do-da, di-da-da, do-do-ti-da-di-do-da. Ti-da-da, di-di-di-do-da, do-do-da, di-da-da, do-do-ti-da-di-do-da. Ti-da-da, di-di-di-do-da, do-do-da, di-da-da, do-do-ti-da-di-do-da.
odeur.
Ouais. Ben, elle est bonne la tétée, c'est quoi?
Ça, c'est de la con.
Ouais, oui. Ok, merci. Passe-moi un détail.
C'est quoi ça? Comme ce que dit.
Ouais, c'est sur l'équipe. Tu sais, un truc qu'on a fait.
T'as la rage!
Il y a deux ans.
Je m'en charge de même oublier. C'est un maestro qui a fait la musique.
Ouais, mortel, mortel.
Putain, j'ai fourraillé quand même. Putain, là, sur toujours.
Bien sûr.
Ah.
Mais là.
Putain, la rage grave. Ça sent trop fort là. Ouvre la fenêtre.
Oh, attends.
Ouvre la fenêtre.
Vas-y, arrête.
Merde, flic. N'importe ces cons, j'en passe en troupeau dans leur fourgon. Ma température monte comme celle de Tony Braxton. Ces crises des, ces fils de, inflige trop de sévices. Violence commise d'office dans l'exercice de leur service. Gratis, c'est port, distribue à tort trop de raclés. Sans autre forme de procès que le fait d'être immigré ou bien trop foncé. Trop souvent, ils oublient la procédure. Couvert par la magistrature, il y a trop de bavures. Cachés, trop d'injures qui sont crachées. À leur gré, à la gueule de beaucoup trop de jeunes qui ont passé trop de nuits chez les condés. À morfler, à se faire allumer. Sans jamais trop poser protester, mais là-haut, oh, trop c'est trop et je craque flic. Vide mon sac, ma basse, ta basse, te matraque flic. Dans ma rythmique, j'ai pas de P38, j'ai juste un SM58 qui dénonce toutes tes pratiques illicites. Cool maintenant, Isop, stop ton attitude de salope pour une enveloppe. J'ai vu fermer les yeux plus d'une fois sur des filtres. Mais dites-moi, quel est le plus véreux des deux, le flic ou la caïra? Tout le monde est d'accord, tu n'es qu'un porc. Police officielle, remorquant du criminel. Ton armée, ton étoile, t'ont donné des ailes. Mais n'ayant jamais vu de mouche envolée dans le ciel, le monde révèle les malversations de ses porcs. Pédigré, ordure, race, mochon. Porc, rongé par la corruption jusqu'au fion. Porc, tu joues les cadors, mais au fond tu n'es qu'un porc. Et un porc restera toujours un porc.
Rappelle, on était tous foncés, pétés, bien fumés, de poing poser notre tête. Donc garder ces choses courantes, sans que la chaleur est présente. Pesant. C'est lui qui t'a pas pris pour stimuler nos esprits. Mais en fait, nous étions là pour faire la fête. Mais maintenant, changement de temps du passé, passons au présent. Pour plus de sensations, plus d'action. Fini la fiction, place la récession. Ok, gars, on est là, rue au maire, rue Volta, notre habitat. Nos fesses posées sur la banquette de la caisse. Le son atteint son maxi, j'ai kiffé mon maxi. J'tire une taf, deux taf, trois taf, yo bébé, c'est gaffe. Près de ma vue, ça sent déjà la garde à vue. La foule les embrouille, tout part en couille. À cause du même à placer, des mots déplacés. Me sens agressé, offensé, on va les freiner. Ok.
Allez, Barthéma, ça fait 15 ans qu'on
est dans le papier. Veuillez
prendre votre papier,
arrêtez de crier, s'il vous plaît. Pas de papier, c'est pas le bordel, s'il vous plaît.
Porc, police officielle, regorgeant de criminels. Ton armée, ton étoile, t'ont donné des ailes. Mais n'ayant jamais vu de cochon voler dans le ciel. Le monde révèle les malversations de ses porcs. Pédigré hors du race rojon. Porc, rongé par la corruption jusqu'au fion. Porc, tu joues les cadors, mais au fond tu n'es qu'un porc. Et un porc restera toujours un porc.
Je déconne, et prends mon envol sur ce son fond. Le sol radar cibité, les bonnes affolent. La jeunesse de la thèse, tu adresses sans aucun complexe. C'est fort, mise à l'index, stress et serre les fesses. La caille à la malaise, de la serrer, te laisse la gueule en sang. Ainsi évitant de laisser à nos enfants cette vénérable institution. Pollution de minables, tout juste capable de te tabasser. Pour que tu passes à table, donc désormais, à chaque coup donné, deux seront rendus. Pour chacune des bavures, deux ports de pendus. Le règne de la caille s'instaure par la mort du port. Le port du mort nous permettra de guider tous ces ports. Vers la lumière, pas de dernière prière, donc je rengaine ma haine. Pas la peine que je scène ce porc qui me gêne. La haine engendre la haine, qu'elle t'intienne. Touche à ma famille, porc, et je nique la tienne.
Porc, police officielle, regorgeant de criminels. Ton armée, ton étoile, t'ont donné des ailes. Mais n'ayant jamais vu de cochon voler dans le ciel. Le monde révèle les malversations de ces porcs. Pédigré, ordure, race, cochon. Porc, rongé par la corruption jusqu'au fion. Porc, tu joues les cadors, mais au fond tu n'es qu'un porc. Et un porc restera toujours un porc. Porc, police officielle, regorgeant de criminels.
100% de matière grasse dans un 100% pur porc. Bienvenue à bord de la face cachée du décor d'une porcherie ou le Vinci.
sévit de ville en ville avec la même envie. Celle de me voir traumatisé à vie, prends ça pour mon avis, t'es avisé. Le port habillé peut se rhabiller, jamais je ne pourrais me raviser. J'ai effacé la haine canalisée. Je suis l'ordure de dépôt que le port injure et qu'il capture dans la nature. Dans son stepo et ses quatre murs, il joue les durs avec pour couverture un insigne, synonyme de passe-droit. Je suis celui que la loi passe-droit désigne, yeux de ma grise mine. Moins je les vois, mieux je me porte. Moins ils nous passent à tabac, mieux je me comporte. Mieux je m'emporte contre le port. Hors de l'ordinaire, passant le clair de son temps, à vouloir me faire la misère, en misant malheureusement encore et encore sur une répression qui frappe à tort, tu n'es qu'un port.
Police officielle, regorgeant de criminels. Ton armée, ton étoile, t'as donné des ailes. Mais n'ayant jamais vu de cochon voler dans le ciel, le monde révèle les malversations de ces porcs. Pédigré hors du race cochon. Port, rongé par la corruption jusqu'au fion. Port, tu joues les cadors, mais de fond tu n'es qu'un port. Et un port restera toujours un port. Port, police officielle, regorgeant de criminels. Ton armée, ton étoile, t'ont donné des ailes. Mais n'ayant jamais vu de cochon voler dans le ciel, le monde révèle les malversations de ces porcs. Pédigré hors du race cochon. Port, rongé par la corruption jusqu'au fion. Port.